Voilà, on va parler dans le cadre de Lecture sous l'arbre, d'une lecture musicale qui a eu lieu au Mazet-Saint-Voix, dans la très belle salle du Calibert. C'était en compagnie de Coralie Zaonero, qui est sociétaire de la Comédie-Française, et Vicente Pradal, qui lui est un grand guitariste et compositeur de flamenco, et qui nous ont proposé un poème de Federico Garcia Lorca, Romancero Ritan. On va écouter tout de suite Coralie Zaonero et Vicente Pradal, et puis on terminera par un petit extrait de ce qu'ils nous ont proposé hier soir. Voici tout de suite donc Coralie Zaonero et Vicente Pradal qui ont régalé un nombre public puisque Calibert avait fait le plein. On a bien avec Coralie Zaonero qui est donc d'origine espagnole mais qui est à la Comédie Française. Alors j'ai vu que vous avez commencé très jeune, vous.
Oui, en effet, à 15 ans à faire du théâtre.
Oui.
Et à travailler professionnellement à partir de 16 ans et demi.
Qu'est-ce qui vous a amené là au théâtre comme ça ?
Le besoin d'expression, la sensation que j'avais beaucoup trop de choses en moi pour qu'une seule vie ne suffise à les exprimer. Le besoin aussi de plus grand que moi, de transcendance. Et je pense que c'est dans les mots des poètes et des grands auteurs que j'ai trouvé tout de suite une puissance dont j'avais besoin en fait pour survivre aux diverses réalités du monde. Et donc voilà, ça a été une passion très forte tout de suite.
Donc le théâtre tout de suite ?
Tout de suite le théâtre, oui.
Et alors, vous avez, j'ai vu un peu, j'ai lu un petit peu ce que vous avez fait, mais vous jouez souvent, vous jouez beaucoup ?
Oui, beaucoup. Le fait d'appartenir à cette magnifique troupe, à la Comédie Française depuis bientôt 30 ans,
déjà.
C'est du 11 mois sur 12. Donc, on appartient à cette troupe et du coup, on est un peu en fait, en attente d'avoir des projets dans la troupe et puis on enchaîne très souvent les spectacles avec des gens très divers.
C'est très divers, ça va. Vous jouez du classique, vous jouez des pièces modernes ?
Oui, bien sûr, du contemporain. D'ailleurs, là, dernièrement, je viens de jouer beaucoup de pièces contemporaines. Mémoire de fille, d'Annie Arnaud, une pièce d'Amina Gina et Émilie Prévoto, d'après Théorème de Pasolini. Donc, vous voyez, mes dernières expériences sont très contemporaines. Et en même temps, je reprends Le Malade Imaginaire, là, à la rentrée, au mois de décembre, avec Guillaume Gallienne et plein d'autres camarades de la troupe.
Beaucoup de travail.
Beaucoup de travail, oui.
Et côté cinéma, vous faites un petit peu...
J'en ai fait à mes débuts, en fait, tout de suite, assez vite. Et puis, dès que j'ai été embauchée dans la troupe, c'est vrai que le travail est tellement important. Puis, j'ai eu deux enfants.
Et donc,
si on veut être un peu avec ses enfants. Et donc, c'est vrai que j'ai fait de la télé quand même. Voilà, j'ai été assez visible en télé. J'ai fait des séries qui ont été assez populaires pendant plusieurs années. Et puis, aujourd'hui, je me consacre vraiment aussi à l'écriture, à la mise en scène. J'écris des adaptations théâtrales. J'ai des projets personnels, on va dire. Des choses comme celles que vous venez d'entendre avec Vicente Pradal, par exemple, sur des plus petites formes. Donc, j'ai besoin aussi de sortir de la Comédie Française et de continuer à aller sur les territoires avec des formes plus petites qu'on ne pourrait pas faire avec la Comédie Française.
Oui, bien sûr, dans le cadre de Lecture sous l'arbre, là, ce que vous venez de faire, moi j'ai vu un petit peu la même chose il y a quelques années en Haute-Loire avec la fille de Jean d'Asté. Ça vous parle, Jean d'Asté ?
Oui, bien sûr, ça me parle. La décentralisation, bien sûr.
Voilà. Et donc, alors elle était mariée avec Raymond Wright. Et en fait, ils se sont retrouvés comme ça, où elle lisait des textes et lui jouait derrière. Donc c'est un peu... Là, on a vu ce côté espagnol quand même, parce que derrière, il y avait un bon guitariste là, ce soir.
Ah ben c'est sûr, Vicente Pradal, c'est un musicien, d'abord compositeur, d'abord guitariste, et puis compositeur et chanteur maintenant. Et c'est vrai qu'il a mis en musique les grands poètes espagnols. C'est sa particularité, notamment Lorca, qu'il connaît bien depuis très longtemps. Et on s'est rencontrés sur Yerma, la Comédie Française, où il a été appelé pour mettre en scène cette pièce de Lorca. Et donc voilà, depuis, on a eu une collaboration assez riche et fructueuse sur Lorca, mais sur Miguel Hernández aussi, sur Saint-Jean de la Croix. Et voilà, et ce soir, c'était le Romancero Ritano de Lorca.
Oui, bien sûr, Lorca, ça parle quand même, je veux dire, même aux novices... Quand on parle de Lorca, ça parle.
Ah ben il est très connu, Lorca. Oui. Et c'est vrai qu'il est emblématique aussi parce que c'est un grand poète qui était déjà très célèbre quand les franquistes ont osé l'assassiner.
On a compris à travers les poèmes.
Hein. Bien sûr, et donc il était très engagé. Il avait monté ce théâtre, La Baraca, pour la République espagnole. qui il militait beaucoup, il était tout à fait convaincu. Et donc, voilà, entre son homosexualité, je crois, aussi, et puis son engagement politique. Bien sûr que non, mais pour les franquistes, comme toujours, oui. L'extrême droite, on le sait bien, ce sont toujours ceux-là qui prennent le plus vite et tout de suite. Et voilà, 2 jours après le début de la guerre d'Espagne, il a été assassiné.
Alors, nous avons le guitariste maintenant. Alors, avant que je... Vincent...
Vicente Pradal.
Vicente Pradal, voilà. Alors, j'adore la musique, j'adore le flamenco. Et là, on a senti derrière vraiment cette âme de l'Andalousie.
Bien, j'en suis content, si vous l'avez senti. Oui, ce sont des compositions à moi qui sont fondées sur des codes du flamenco, des marches harmoniques et des rythmes originaux de flamenco, comme la siguería, la petenera, l'alegría, enfin voilà.
Donc vous avez travaillé bien sûr sur les poèmes de Lorca.
Ben là on a travaillé sur un recueil particulier qui s'appelle Romancero Gitano.
Oui,
c'est-à-dire que le flamenco et les gitans par exemple ont toujours une tradition orale. Et les gitans n'avaient pas de livres. Et Federico qui les a beaucoup fréquentés, beaucoup admirés, leur a donné finalement un livre racontant un certain nombre d'histoires qu'il a glanées au cours de son itinéraire andalou auprès des gitans et qu'il a rêvé aussi d'ailleurs. Et il fait vivre un certain nombre de personnages. Il peuple ce recueil de personnages un peu théâtraux comme El Amargo, comme El Camborio, comme La Monja Gitana. Et voilà, donc il a donné un livre finalement aux gitans avec ce romancero qui est fondé d'un point de vue poétique sur une tradition espagnole ancienne qu'on appelle le romancero, qui sont des vers octosyllabes en général et qui sont anonymes, qui démarrent à peu près au XIVe siècle et qui nous racontent soit des histoires de guerre, soit des histoires d'amour. Mais Lorca, qui avait une grande culture poétique, s'est inspiré de la forme du romancero pour servir l'histoire de cette communauté gitane qui était quand même opprimée, qui l'est encore d'ailleurs, et qui l'a magnifié en disant qu'ils étaient ce que l'Espagne finalement faisait de mieux, quoi, cette espèce d'aristocratie populaire comme ça des gitans.
Oui, alors, dans les textes, quand même, on sent quelques traits d'humour parfois.
Oui, je pense que Federico, Vicente Alessandri, qui était prix Nobel de littérature et qui était un grand admirateur de Federico, il disait, parce que Federico était un homme très joyeux, il disait, quand Federico arrivait quelque part, il ne faisait plus chaud, ni plus froid, ni plus jour, ni plus nuit, il faisait Federico. C'est-à-dire qu'il avait cette espèce d'aura, comme ça, si vous voulez, et c'était un garçon qui était à la fois un homme qui était à la fois très angoissé, qui avait ses angoisses métaphysiques, sa peur de la mort qui est toujours présente dans ses poèmes, mais en même temps une grande joie de vivre aussi. Donc c'est un mélange, comme le dit Coralie dans le début, hein, on sent à la fois dans cette peine andalouse prégnante qu'il y a aussi une grande bouffée d'espérance et de joie.
Vous vivez tous les deux à Paris ?
Non, moi je vis à Paris et Bicente est du sud.
Et du sud, non, du sud. Montpellier ?
Pas très loin. Elle est de Montpellier.
Je suis Montpellier-Rennes. Je suis née à Montpellier. Et j'ai vécu 17 ans, mais je suis montée à Paris, comme on dit. J'y suis restée.
Moi, je suis toulousain, mais je vis dans les Corbières.
D'accord. Ah, c'est bien. Et donc, la guitare, vous jouez dans des groupes ou... Non ?
La guitare, c'est une tradition familiale.
Vous faites
un peu de flamenco
pour vous ?
Non. J'en ai fait beaucoup du flamenco, oui. Je viens de là, moi. J'ai accompagné beaucoup de cantaores, des grands chanteurs. Et puis maintenant, je la mets au service de mes compositions. Mais au départ, je viens du flamenco.
Donc, vous composez ?
Oui.
Beaucoup ?
Moins maintenant.
Il a fait de grandes œuvres, yeah, ouais. Qu'on peut trouver d'ailleurs en CD.
Oui, d'accord.
Le Yanto.
Notamment beaucoup d'œuvres inspirées de la poésie de Federico García Lorca. Voilà.
C'est votre première rencontre ? C'est votre première rencontre ?
Non, mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, puisque je vous disais, on s'est rencontrés sur Yerma de Federico García Lorca, au français, donc, la comédie française, et on a continué notre collaboration.
D'accord.
Voilà.
Ben, continuez. Hein.
Merci
beaucoup. Vous nous avez régalé.
Merci beaucoup.
Merci de votre gentillesse.
Au revoir.
Merci
et
à vous.
Et bonne réussite.
Merci.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Voilà donc avec ces deux interprètes à qui nous ont régalé hier. On va écouter d'ailleurs un petit extrait de ce qu'ils nous ont proposé.
Personne ne m'a appris ce qui est substance et magie pure, la poésie. Le romancero gitan est le poème de l'Andalousie. Je l'appelle gitan car le gitan est ce qu'il y a de plus élevé, de plus profond, de plus aristocratique dans mon pays, de plus représentatif de ses usages. Celui qui garde la braise, le sang et l'alphabet de la vérité andalouse et universelle. C'est mon œuvre la plus populaire, c'est indiscutablement celle qui a le plus d'unité et où mon visage poétique apparaît pour la première fois avec une personnalité propre, vierge de tout contact avec un autre poète et définitivement dessinée. Ce livre est un retable de l'Andalousie avec des gitans, des chevaux, des archanges, avec sa brise juive, avec sa brise romaine, des fleuves, des crimes, avec la touche vulgaire du contrebandier et la touche céleste des enfants de Cordoue qui taquinent Saint-Raphaël. Un livre où c'est à peine si l'Andalousie visible est exprimée, mais où palpite celle qu'on ne voit pas. Et maintenant, je vais le dire, un livre anti-pittoresque, anti-folklorique, anti-flamenco, dans lequel un habit de toréador n'a pas sa place, ni un chapeau plat, ni un tambourin. Un livre où les protagonistes sont au service de profondeurs millénaires et où il n'y a qu'un seul personnage, grand et sombre comme un ciel d'été. La peine qui s'infiltre dans la moelle des eaux, dans la sève des arbres, et qui n'a rien à voir avec la mélancolie ou la nostalgie ou la tristesse ou quelques maladies de l'âme. La peine qui est un sentiment plus céleste que terrestre. La peine andalouse qui est une lutte de l'intelligence amoureuse avec le mystère qui l'entoure sans qu'elle puisse le comprendre. Le romance traditionnel a toujours été un récit. Et c'est le récit qui donne du charme à sa physionomie. Car lorsqu'il devient lyrique, sans écho d'anecdote, il se transforme en chanson. J'ai voulu fondre le narratif et le lyrique sans que ni l'un ni l'autre ne perdent leur qualité. Et j'y suis parvenue dans quelques poèmes du romancero, comme dans celui que j'intitule « Le romance somnambule ». Où il y a une grande sensation d'anecdotes, une vive atmosphère dramatique. C'est un des plus mystérieux du livre, que beaucoup interprètent comme un romance qui exprime le désir ardent de Grenade pour la mer. L'angoisse d'une ville qui n'entend pas les vagues dans les brumes ondulées dont elle couvre ses montagnes. Personne ne sait ce qui se passe, pas même moi, car le mystère poétique est aussi un mystère pour le poète qui le communique, mais bien souvent en ignore le sens. Si vous me demandez pourquoi je dis « mille tambourins de verre blessaient l'aurore », je vous répondrai que je les ai vus dans les mains d'anges et d'arbres, mais je ne saurais pas vous en dire plus, ni encore moins en expliquer le sens. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. L'homme, par le biais de la poésie, s'approche plus rapidement du tranchant auquel le philosophe et le mathématicien tournent le dos en silence. Toutes les choses ont leur mystère et la poésie, c'est le mystère de toutes les choses. Le romance de la Rix exprime ce qui est latent en Andalousie et dans toute l'Espagne. Cette lutte sourde de groupes qui s'attaquent sans trop savoir pourquoi. Pour des raisons mystérieuses, pour un regard, pour une rose, parce qu'un homme subitement sent un insecte sur sa joue, pour un amour vieux de 2 siècles. Le romance de l'épouse infidèle. Alors celui-là, oui, est bien une pure anecdote andalouse. Populaire jusqu'au désespoir. En opposition à la nuit entraînante et ardente de l'épouse infidèle, nuit de hauts plateaux et d'osiers ombragés, apparaît la nuit de Soledad Montoya, incarnation de la peine irrémédiable, de la peine noire de laquelle on ne peut sortir qu'en ouvrant avec un couteau une boutonnière bien profonde du côté droit. La peine de Soledad Montoya est la racine du peuple andalou. Ce n'est pas de l'angoisse, car on peut sourire en ayant de la peine. Ce n'est pas non plus une douleur qui aveugle, car jamais elle ne provoque de larmes. C'est un désir sans objet. C'est un amour aigu pour rien. Avec la certitude que la mort, préoccupation récurrente de l'Andalousie, respire derrière la porte. Ensuite, apparaît dans le retable un de ses héros les plus nets, Antonito El Camborio, le seul dans tout le livre qui m'appelle par mon nom au moment de sa mort. Authentique gitan, incapable de faire le mal, comme beaucoup qui meurent de faim parce qu'ils refusent de vendre leur voix millénaire. Lorsque j'avais 8 ans, et que, alors que j'étais en train de jouer dans ma maison de Fuente Vaqueros, se pencha à la fenêtre un jeune homme qui me parut être un géant et qui me regarda avec un mépris et une haine que jamais je n'oublierai. Au loin, une voix l'appela « Amado, viens !» Il cracha à l'intérieur avant de disparaître. Depuis, Amargo, cette force andalouse, centaure de haine et de mort, n'a cessé de croître en moi jusqu'à ce que je puisse définir pourquoi il m'a regardé ainsi. Ange de la mort et du désespoir qui garde les portes de l'Andalousie. Ce personnage est une obsession dans mon œuvre poétique. Aujourd'hui, je ne sais si je l'ai vu ou si ce fut une apparition, si je l'ai imaginé ou s'il a failli m'étrangler de ses mains. Mais quel est ce vacarme dans les montagnes d'Almeria? C'est la garde civile qui vient. C'est le thème fort du livre et le plus difficile et incroyablement anti-poétique. Malgré tout, il ne l'est pas. Le livre commence avec un mythe inventé. La lune, telle une ballerine mortelle. Mythe de la lune sur des terres de danse dramatique. Andalousie intérieure, concentrée et religieuse.
En el aire conmovido, mueve la luna su brazo y enseña lúbrica y pura su seno de duro estadio.
Avec son jupon de nard. Le petit enfant regarde, le petit enfant la voit. Dans l'air bouleversé, la lune agite et bouge ses mains. Elle montre, lubrique et pure, ses seins durs comme l'étain. Va-t'en, lune, lune, lune! Car si les gitans venaient, avec ton cœur, ils feraient des bagues et des colliers blancs. Enfant, laisse-moi danser. Les gitans, quand ils viendront, te trouveront sur l'enclume, tes deux petits yeux fermés. Va-t'en, lune, 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 j'entends venir leurs chevaux. Laisse-moi, n'abîme pas ma blancheur à midonner. Le cavalier approchait, frappant le tambour des plaines. À l'intérieur de la forge, l'enfant a les yeux fermés. Les gitans de bronze et rêve viennent par l'oliveraie. Ils ont la tête dressée et leurs yeux sont entrouverts. Comme chante le hibou.
Ay, como canta en el árbol.
Ay, comme il chante en l'arbre.
Con el cielo va la luz.
La lune qui monte au ciel.
Con un niño de la mano.
Tiens un enfant par la main.
Dentro de la fragua y yo.
A l'intérieur de la forge.
Cuando grito lo gitano.
Les gitans pleurent en criant.
El aire la vela, la vela.
Le vent la veille.
El aire la está velando.
Maintenant le vent.
Y de la está velando, el aire de la vela, vela, el aire la está velando, el aire de la está velando. Verde que te quiero ver. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Vert, c'est vert que je te veux. Vert le vent, vertes les branches. La barque va sur la mer, le cheval sur la montagne. L'ombre est autour de sa taille. Elle rêve à sa balustrade, verte chair. Les cheveux verts et les yeux d'argent glacé. Vert, c'est vert que je te veux. Et sous la lune gitane, toutes les choses la voient, mais elle ne peut pas les voir. Vert, c'est vert que je te veux. De grandes étoiles de givre escortent le poisson d'ombre qui ouvre la voie à l'aube. Le figuier gratte le vent avec sa râpe de branches. La montagne, chat sauvage, hérisse ses dures agaves. Mais qui viendra et par où? Elle demeure à son balcon, verte chair et cheveux verts, rêvant de la mer amère. Compadre, échange-moi mon cheval pour ta maison, ma selle pour ton miroir, couteau contre couverture. Compadre, j'arrive en sang depuis l'école de Cabra. Si je pouvais, mon garçon, j'accepterais ce marché, mais je ne suis plus moi-même, ma maison n'est plus la mienne. Compadre, je veux mourir dans mon lit, bien décemment. Un lit d'acier, si possible, avec des draps de Hollande. Tu vois la plaie que j'ai là, de la poitrine à la gorge? Ta chemise à jabot blanc porte 300 roses brunes. Ton sang jaillit, odorant, tout autour de ta ceinture. Mais je ne suis plus moi-même, ma maison n'est plus la mienne. Laissez-moi monter de grâce vers les hautes balustrades. Laissez-moi, je veux monter jusqu'aux vertes balustrades, aux rambardes de la lune où l'eau retombe en cascade. Remonte vers les hautes balustrades, laissant des traînées de sang, laissant des traînées de larmes. Quelques lanternes en fer blanc grelottent sur les terrasses. Mille tambourins de verre blessent le petit matin. Vert, c'est vert que je te veux. Vert le vent, vertes les branches. Les deux compadres montaient. Le vent laissait dans la bouche un étrange goût de fiel, de menthe et de basilic. Dis-moi, compadre, où se trouve maintenant ta fille amère? Tant de fois elle t'attendit, tant de fois elle t'espéra. Frais visage, cheveux noirs à la verte balustrade. Sur la face de la citerne se balançait la gitane, verte chair et cheveux verts, et les yeux d'argent gelés. Un stalactite de lune la maintient à la surface, et la nuit s'est faite intime comme une petite place. Ivre, des gardes civils frappaient violemment la porte. Vert, c'est vert que je te veux. Vert le vent, vertes les branches. La barque va sur la mer, le cheval dans la montagne.
De Calimirto, malvas en las hierbas finas, la monja borda le líe sobre una tela pajiza. Vuelan de la araña gris siete pájaros del prisma, la iglesia gruñe a lo lejos con un oso panza arriba. Ella quisiera burlar flores de su fantasía, que girasol, que magnolia, de lentejuela y cinta, que azafranes y que luna en el mantel de la misa, cinco toronjas en dulce en la cercana cocina, las cinco llagas de Cristo cortadas en almería por los ojos de la monja, galopan dos caballistas y un rumor último y sordo le despega la camisa. Qué bien bordada, se quiera su corazón de azúcar y hierba luisa, aquella luna empinada con 20 soles arriba, que ríos puestos de pie vislumbra su fantasía.
La nonne brode des giroflées sur sa toile jaune.